dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Mardi 18 février 2025, 7 députés et 7 sénateurs de la commission mixte paritaire se sont mis d'accord sur le texte de loi d'orientation agricole. Quels sont les changements dans cette nouvelle version? L'article 13, dénoncé comme un permis de détruire la biodiversité, demeure. Il prévoit que seules les atteintes intentionnelles seront passibles de poursuites pénales. En clair, il faudra prouver que la destruction de la nature a été volontaire et réfléchie pour condamner le contrevenant. Or, en droit, prouver que la personne avait l'intention de tuer une espèce est très difficile. Le texte réintroduit l'objectif de 21% de surface agricole cultivée en bio d'ici 2030. Cette mesure avait été effacée par un amendement de Laurent Duplomb, invoquant la grave crise qui touche le secteur. Enfin, s'il réintègre la notion de transition climatique et environnementale, le terme agroécologie reste écartée. Ceci est un extrait du site Reporter. Alors où en est-on aujourd'hui? Pourquoi les agriculteurs sont-ils toujours poussés à s'endetter? Pourquoi les techniques agricoles se révèlent-elles incapables de s'adapter aux dérèglements climatiques? Qu'en est-il des pratiques polluantes qui sont devenues la norme? Pour comprendre le modèle agricole qui domine une grande partie du monde, il est nécessaire d'identifier les lignes de force industrielles qui les structurent et ainsi d'analyser l'intention capitaliste qui les écrase et aussi la remise en question de la centralisation du modèle agricole. Et pour parler de cela dans l'émission de ce jour, nous vous proposons l'écoute de la présentation du livre « Agriculture industrielle, on arrête tout et on réfléchit » aux éditions Rue de l'Échiquier. Cette présentation se tenait en compagnie des auteurs du livre, Jacques Capla et Stéphane Kharkov. Et cela se déroulait à la librairie Quilombo à Paris. Bonne écoute.
Bienvenue à la librairie Quilombo. On est une librairie associative et autogérée qui existe depuis maintenant presque 23 ans. On est une librairie qui est spécialisée dans tout ce qui est... on va dire critique sociale, voilà, on a principalement des sciences humaines. Les deux axes de la librairie s'articulent autour d'une tradition anarchiste avec quelque chose qu'on rapprocherait aujourd'hui de la critique de la société industrielle. On est très content ce soir d'accueillir Jacques Capla et Stéphane Kharkov pour un livre qui vient de paraître aux éditions Rue de l'Échiquier, Agriculture industrielle, on arrête tout et on réfléchit. Voilà, c'est le nom de la collection, qui est en même temps le sous-titre, si je comprends bien, de chacun des livres, qui est un livre qui est coédité avec Agir pour l'environnement. Et donc on est doublement content puisque cette collection, on arrête tout et on réfléchit. On avait demandé à Stéphane un petit texte de présentation dans le dernier numéro de La Feuille, qui est un petit journal de 8 pages qu'on imprime chaque semestre, qui est distribué gratuitement. Hein, donc. Et Stéphane avait accepté voilà, d'écrire un petit texte pour présenter cette nouvelle collection, hein, si on peut dire, puisqu'elle existe depuis un an et demi maintenant. Deux ans. On parlait de faire quelque chose, justement sur le livre de Jacques Capla. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de venir le présenter. Et donc, peut-être pour commencer, je vais plutôt demander à Stéphane, peut-être petite présentation brièvement des autres livres qui sont déjà parus et comment s'intègre ce nouvel ouvrage dans cette collection d'Agir pour l'environnement.
Bah merci à la librairie Quilombo de nous accueillir pour la présentation de ce nouvel opuscule qui est le cinquième, donc coédité avec nos amis de Rue de l'Échiquier, dont je salue la présence de Thomas et de Rachel. Donc Thomas, directeur des éditions Rue de l'Échiquier, et Rachel qui nous fait souffrir, qui relit, qui corrige et qui nous permet de publier un bouquin sans aucune coquille et avec des sources contrôlées, vérifiées. Donc merci. Et Marie-Jeanne Husset, donc la présidente d'Agir pour l'environnement. Donc, collection, alors oui, qui a deux ans, mais dont on parle depuis combien, 10 ans, avec une ambition qui, en fait, tu l'as dit, nous on est très marqués par l'an 01. Le sous-titre, c'est « On arrête tout, on réfléchit » et « C'est pas triste ». On a enlevé le « C'est pas triste » parce que je pense qu'en fait, on a arrêté de rigoler il y a maintenant 3 mois depuis l'élection de Trump. Mais en l'espèce, l'enjeu était de dire, en fait, on est dans une logique de fuite en avant où, en fait, on banalise un certain nombre d'errances du capitalisme, là où, en fait, il faudrait juste se stopper, réfléchir et regarder et établir un diagnostic. Particulièrement sur les questions écolo, où en fait tout le monde s'improvise écologiste, a un avis tranché sur la plupart des éléments qui ont fait l'objet d'un livre. Hein, donc, attention, c'est le moment promotion. Donc, on en a fait un sur le premier, c'était sur les perturbateurs endocriniens, énergie nucléaire, numérique et tout voiture, et le dernier sur agriculture industrielle. Et une fois encore, l'ambition de cette collection, c'est de faire une photographie honnête, objective, des controverses écologiques. Et en s'appuyant sur des sources qui, autant que faire se peut, sont des sources institutionnelles, qu'on ne va pas nous renvoyer comme « oui, c'est une source associative ou un peu discutable, etc. » Donc, en fait, on produit un livre qui, à mon sens, est un petit précis, qui permet de faire le tour de la question assez rapidement, et une deuxième partie qui dessine les contours de solutions alternatives au diagnostic anxiogène qu'on dresse sur la première partie. Voilà, pour nous, c'est un grand honneur d'accueillir Jacques, qui est par ailleurs salarié d'Agir pour l'environnement, coordinateur des campagnes d'Agir pour l'environnement, mais aussi agronome, ethnologue, et donc auteur de 4 ou 5 livres sur les questions d'agriculture, de bio en particulier, 7. Voilà. Donc 7 bouquins, et en fait, dont, pour le coup, a une vraie légitimité à intervenir sur les questions agricoles. Et quand on dit agriculture industrielle, est-ce que déjà tu peux nous dire ce que toi tu entends par agriculture industrielle ? On entend agriculture productiviste, agriculture conventionnelle, agriculture intensive. Donc en fait, c'est quoi la définition d'une agriculture industrielle ? Quelle est la genèse de ce terme ? Et pourquoi tu as utilisé ça plutôt que agriculture productiviste, par exemple, quoi ? Agriculture capitaliste, parce qu'il me semble qu'à un moment, on se questionnait aussi sur cette notion-là.
En fait, moi, j'ai, en tant qu'agronome, j'ai travaillé jusqu'à maintenant surtout sur l'entrée agriculture conventionnelle. Et l'agriculture conventionnelle, c'est l'agriculture qui fait convention dans les institutions internationales. Et donc, en fait, c'était sous un angle agronomique, technique. C'est quoi les techniques qui sont mises en œuvre et qui sont considérées à tort ou à raison, et beaucoup à tort, comme étant la définition de l'agriculture, donc un certain nombre de techniques qu'on appelle conventionnelles. Je me suis longtemps arc-bouté sur ce terme-là en disant « industriel, c'est trompeur comme terme », productiviste, c'est vrai, mais on passe à côté du sujet. Intensif, c'est souvent faux. C'est grâce à Thomas et Stéphane qui m'ont demandé si je pouvais faire un bouquin dans cette collection. Et je pense que c'est Thomas qui avait proposé le terme agriculture industrielle. On avait discuté effectivement aussi un peu de l'agriculture capitaliste, ce qu'elle est aussi, profondément. Et c'est un aspect que je traite aussi dans le livre. En fait, je me suis rendu compte qu'agriculture industrielle, c'était très intéressant de développer tous les fondements économique et politique que j'abordais déjà dans d'autres livres et des conférences, parce que je fais beaucoup de conférences débats, j'abordais déjà ces sujets-là, mais je m'étais rendu compte justement, en interagissant avec le public, que l'aspect purement agronomique ne donnait pas toutes les explications. Et donc, au lieu de faire rentrer de force des explications économiques et historiques dans une dimension agronomique, bah, peut-être mieux, une bonne fois pour toutes, mettre tout ça à plat et faire un bouquin qui revienne un petit peu sur l'histoire de cette agriculture conventionnelle, dont les fondements, en fait, sont industriels. Elle est conventionnelle sur le plan technique, parce qu'elle est industrielle au départ, sur le plan économique et politique. Pourquoi elle est industrielle ? En fait, un point qui est très important à comprendre à propos de cette agriculture, c'est que, moi-même étant pourtant agronome et fils de paysan, j'avais la conviction que cette agriculture était loin d'être toujours industrielle, parce qu'il y a encore, même aujourd'hui, des petits paysans. Et en France, jusqu'aux années 50-60, c'était une petite paysannerie, très largement artisanale. Donc le terme d'industriel qui fait référence à une transformation économique du 19e siècle me paraissait un peu abusif. En fait, c'est pas abusif du tout. En fait, même si dans les pratiques paysannes, c'est venu plutôt dans les années 1950-1960 qu'on a eu vraiment le basculement de la quasi-totalité de l'agriculture sur le terrain vers des modèles industriels, en fait, ce modèle, il est présent depuis le 19e siècle. Pourquoi ? Parce que depuis le 19e siècle, l'ensemble de l'économie mondiale, enfin en tout cas européenne et ensuite mondiale, puisqu'on a quand même colonisé et mis sous notre coupe une bonne partie du monde, l'ensemble de cette économie s'est organisé autour d'une logique industrielle, c'est-à-dire c'est quoi la révolution industrielle, c'était quoi ? C'était produire de façon massive, donc une production de masse, de produits uniformisés, standardisés, dans une logique qui politiquement, économiquement et scientifiquement est centralisée. Et cette logique-là a aussi une dimension capitaliste parce que la manière dont cette agriculture de masse uniformisée et standardisée s'est organisée, ça a été autour du capital, autour d'une accumulation des moyens de production. Ça s'est traduit par un agrandissement progressif des fermes et surtout un surenchérissement progressif du capital d'exploitation, en fait. Et on est arrivé à un système où aujourd'hui, ce côté accumulation des moyens de production, il devient extrêmement violent dans le monde paysan aujourd'hui parce que les agriculteurs n'arrivent plus à transmettre leurs fermes à leurs enfants, par exemple. Si un agriculteur a deux enfants, le simple fait de devoir racheter des parts du deuxième est hors de portée économiquement. Il faut avoir un enfant unique pour transmettre une ferme. Et encore, avec les impôts, c'est même pas. C'est pour ça que maintenant, ils veulent faire des exonérations d'impôts pour les agriculteurs. En fait, c'est complètement barré. C'est-à-dire, au lieu de dire, on a un système qui ne tient plus, il faut le changer, ils sont en train de dire, oh ben, on va faire des exceptions au droit de succession pour les agriculteurs, parce que sinon, ils ne peuvent plus continuer à s'agrandir. Non, il faudrait arrêter, quoi. Et donc, cette logique, elle est industrielle, parce qu'elle est basée sur cette massification, uniformisation, standardisation, centralisation. Et je vous promets, je n'ai pas fait exprès, mais la première fois que je l'ai écrit, massification, uniformisation, standardisation, centralisation, je me suis rendu compte que ça donne Musk. L'agriculture, et moi j'en ai pris conscience en travaillant sur l'histoire de l'agriculture, de quelque chose dont j'étais conscient globalement depuis longtemps, mais ça m'est devenu pour moi palpable, en tant qu'agronome, en tant que fils de paysan, en tant qu'acteur de l'agriculture depuis 50 ans quasiment maintenant, enfin acteur on va dire depuis 35 ans, faut pas exagérer, c'est que la logique capitaliste qui est en train de tourner au fascisme et qui est en train de faire complètement exploser la planète, elle se traduit très exactement dans l'agriculture. L'agriculture est un formidable terrain de jeu de cette logique, et Musk est tout à fait l'accomplissement de la même logique que celle de l'agriculture.
Je rebondis un peu avec l'actualité, les élections des chambres d'agriculture, où on voit l'émergence d'un poujadisme agricole, je ne sais pas si on peut le définir comme ça. Est-ce que c'est une réaction ? Est-ce que c'est une amplification ? En fait, comment toi t'interprètes ces résultats-là ? Et est-ce que, en fait, les signaux envoyés par ces électeurs, c'est on est en crise, on veut changer, ou c'est on est en crise, donc on veut continuer et amplifier la dynamique capitaliste ?
En fait, tout le problème de la crise actuelle est du fait que la coordination rurale, donc le syndicat d'extrême droite, même s'ils s'en défendent, et peut-être que certains au sein de la coordination rurale, d'ailleurs, essayent de s'éloigner un petit peu du courant le plus extrême droite du syndicat. Il y a eu des signaux récemment qui tendent à montrer qu'ils veulent un petit peu se normaliser, mais c'est quand même, on va dire pour simplifier, un syndicat d'extrême droite qui a augmenté aux dernières élections professionnelles agricoles. Ce repli vers ce vote-là, à mon avis, il va nous falloir 6 mois ou 1 an pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Hein. C'est pas si simple. Mais ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est que beaucoup de paysans sont tellement le nez dans le guidon de ce système industriel qu'ils n'arrivent pas à concevoir leur métier autrement. C'est-à-dire qu'il est tellement prégnant, je vous dis, depuis le 19e siècle, cette logique où on va produire pour des très grosses unités, où on va chercher en fait à réduire les coûts par le gigantisme. Point important qu'il faut avoir en tête, c'est que ce modèle, il s'est d'abord mis en place dans des systèmes qui n'étaient pas du tout intensifs. Le mot intensif est souvent très faux pour parler de cette agriculture. Elle est d'abord extensive. Les ranchs, c'est très extensif. Les ranchs des États-Unis, les grandes haciendas d'Amérique du Sud, les domaines d'Australie, les agneaux en Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, c'est des pays où on a des systèmes très extensifs, en fait, qui coûtent presque rien. Dans ces conditions-là, quand on a des terres qu'on a évidemment prises aux populations autochtones qui étaient là avant, hein, et qu'on considère qu'on a des terres à disposition de façon infinie, on peut réduire les coûts de production à presque rien. Et on a demandé à toute l'agriculture, à toute l'économie agroalimentaire de s'aligner là-dessus. Alors, en Europe, ça a donné lieu à une transformation vers un système parfois intensif. Par exemple, l'élevage hors sol, qui est intensif au sens où, effectivement, il y a beaucoup d'animaux sur une surface minuscule. Mais globalement, la logique, ça a été réduire les coûts. Donc la logique de ce système industriel, c'est consubstantiel à la logique industrielle, ça va être plus on produit, plus on va réduire les coûts. Et plus on produit de façon standardisée, parce que si c'est des calibres différents, des variétés différentes, etc., là c'est pas gérable. Donc il faut que ce soit bien standardisé. À ce moment-là, on va réduire les coûts. Et donc, ils sont tellement pris dans cette logique-là, que lorsque ils se prennent le dérèglement climatique dans la figure, la seule solution qu'ils ont en tête, c'est réduire les coûts. Et en fait, pour moi, le vrai problème de la crise agricole, d'ailleurs j'ouvre un peu le livre sur ce sujet-là, parce qu'il y a une vraie crise agricole, et les paysans sont dans un désarroi réel et terrifiant. Parce qu'ils ne savent pas si dans 3 ans, si dans 5 ans, ils vont continuer à produire. Mais à cause du dérèglement climatique, qui fait que ce modèle, qui là pour le coup d'un point de vue agronomique, ne peut pas s'adapter au dérèglement climatique, ce modèle est en train de s'effondrer. Et face à ça, en fait, leur seule réponse, parce qu'ils sont le nez dans le guidon de l'industrie, ils se disent, bah, on va faire ce qu'on a toujours su faire, c'est-à-dire, on va réduire les coûts. Au lieu de s'adapter au dérèglement climatique, on va réduire les coûts. Et donc, ils veulent supprimer ce qu'ils appellent des normes, que j'appelle les règles élémentaires pour que la planète survive, et pour que les humains vivent décemment, normes environnementales et sociales. Ben voilà, ils vont essayer de les démanteler, parce que c'est tout ce qui leur reste, en fait. De ce point de vue-là, la logique de la collection de dire on arrête tout et on réfléchit, c'est bien, pour moi, en dehors du fait que j'adore aussi GB et l'an 01, c'est de dire on fait un pas de côté. Arrêtons de reproduire toujours des aménagements d'un système industriel avec des discussions, avec des ratiocinations agronomiques sur ceci ou cela. La question n'est pas de savoir si on va remplacer ce produit par cela. La question c'est est-ce qu'on reste dans cette logique ou est-ce qu'on en sort? Et j'espère montrer dans le livre qu'on peut en sortir.
Là, en fait, la réaction classique d'un paysan pris dans les fourches de l'agriculture industrielle, c'est de dire « oui, t'es un bobo parisien, c'est bien, t'as des solutions, mais en fait, elles ne résistent pas à l'analyse ». J'ai l'impression que ça fait juste 50 ans qu'on dit la même chose en tant qu'écolo, que 50 ans que les précurseurs de la bio le mettent en œuvre, et pourtant, en fait, on bute toujours sur les mêmes freins, les mêmes blocages, les mêmes réserves, réticences d'un certain, le syndicat majoritaire FNSEA qui verrouille l'affaire. Donc, sans passer tout de suite à la deuxième partie, les solutions, vraisemblablement, on les a expérimentées, elles marchent, et pourtant, on reste minoritaire. Comment t'expliques ce paradoxe?
Je rebondis sur ta remarque sur le côté c'est bon un bobo qui achat. En fait, évidemment, là on est dans un public, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'agriculteurs ou d'agricultrices dans la salle, mais je vous rassure, enfin, quand j'interviens, puisque j'ai fait un sacré paquet de conférences, débats depuis une dizaine d'années, très souvent j'ai des paysans, j'ai pas que des paysans, ils sont souvent minoritaires dans la salle malgré tout, même en plein milieu de la Bretagne profonde, mais il y a des paysans qui viennent. Et en fait, je crois que le plus grand plaisir que j'ai depuis 10 ans, 12 ans, quand je fais des conférences comme ça, c'est que très souvent, des agriculteurs conventionnels, pas du tout bio, pas du tout hors système, viennent me voir, ou quelquefois même pendant le débat, disent « Ben moi, je suis exactement dans le système dont vous dites du mal, enfin, que vous critiquez, et je suis totalement d'accord avec vous. » Parce qu'en fait, il y a des mises en scène médiatiques. Vers les mêmes personnes, si je les croise sur les réseaux sociaux, on va s'engueuler. Parce qu'il y a une mise en scène. Les responsables syndicaux, notamment FNSEA, c'est impossible de travailler avec eux, de discuter avec eux, et je ne parle pas de la coordination rurale, parce qu'on est tout de suite dans des postures scéniques. Mais lorsqu'on est dans des discussions ouvertes, où on prend le temps de débattre, de partager, et où ils voient bien, dans mes explications que je ne vais pas faire ce soir, sur les aspects agronomiques, que je sais de quoi je parle, eh bien en fait, le débat s'engage. Et beaucoup de paysans, en fait, sont prêts à se remettre en question. C'est ça qui est très intéressant. Et j'ai envie de dire, là, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas ? Ben, sans doute parce qu'on se laisse, sans doute, et moi-même, je me laisse souvent piéger dans des situations de posture rhétorique, en fait. Et c'est terrible, parce que je sais être dans des situations de dialogue hyper constructif avec des paysans, et ben malgré tout, je me laisse parfois piéger sur les réseaux sociaux, dans des postures où ça va être le clash, et où ça va être complètement stérile. Donc j'ai envie de dire, là c'est plus une question, je pense pas que sur le fond il y ait de problème, sur le fond les solutions on les a, le problème il est plus dans la manière de mettre en mouvement, de se mettre à de discuter ensemble, sans céder pour autant. Par contre je ne partage pas la position qu'ont certains, y compris parfois au sein du monde syndical agricole alternatif, genre certains au sein de la Confédération Paysanne parfois, Confédération Paysanne étant le syndicat plutôt gauche écolo, on va dire, en tout cas pour une transformation agroécologique de l'agriculture. Mais même au sein de la Confédération Paysanne, parfois je ne suis pas forcément d'accord avec des postures qui sont un peu de dire pour ne pas heurter, on va mettre de l'eau dans le vin, en quelque sorte. Je suis absolument convaincu qu'on peut être extrêmement radicaux et extrêmement exigeants sur le fond, tout en étant respecté, tout en respectant l'autre et en discutant. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en fonctionnement, en fait.
Je reviens sur le constat parce que en fait tu parles de gigantisme, de concentration capitalistique des exploitations. On a là le point de vue de l'agronome ou du critique du système agricole actuel. Et en même temps, du point de vue du consommateur, depuis les années 45, on a accédé, à, vraisemblablement, tu vas me reprendre sur le terme, mais une autonomie alimentaire avec des produits qui coûtent moins cher. Donc, en fait, du point de vue du consommateur, vraisemblablement, il y a une appétence pour cette agriculture industrielle où elle a trouvé sa niche. Vraisemblablement, si elle était remise en cause par les consommateurs, elle n'existerait plus.
C'est très intéressant parce que c'est pour moi un des malentendus qu'on a très souvent en agriculture comme dans les autres domaines. En fait, on reste piégé dans cette idée qu'il y aurait en quelque sorte une loi de l'offre et de la demande. Les consommateurs répondraient de façon neutre et éclairée et objective à une situation neutre, éclairée et objective de l'autre côté. Or, c'est totalement faux. L'historien Fernand Braudel, il y a déjà 80 ans maintenant, avait démontré que la notion de loi de l'offre et de la demande n'a peut-être pu exister dans l'histoire de l'humanité que dans des sociétés de troc, de proximité. C'est-à-dire là où on n'avait aucun intermédiaire entre l'offre et la demande. Mais dès lors qu'on a des intermédiaires, ou dès lors qu'on a un groupe collectif, qu'une chose publique, on a forcément soit des intermédiaires qui ont leur intérêt économique propre, soit des intermédiaires qui ont un intérêt du bien commun. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, on va faire intervenir des biais, et c'est normal. Et l'économie est bourrée de biais. Et en fait, les consommateurs d'aujourd'hui, au niveau agricole, ils ne peuvent absolument pas faire un choix libre et éclairé dans un monde théoriquement totalement neutre. C'est faux. En fait, ils ont le choix de ce que le modèle agro-industriel leur propose. Donc, dans la mesure où tout est construit pour que ce qui est le plus rentable, c'est la spécialisation par filière. Un autre point très important, ça a été la spécialisation des gestes et le recours aux énergies fossiles. Pour être complet, les dynamiques de départ de la révolution industrielle, c'est remplacer une partie des forces humaines par des énergies fossiles et spécialiser les gestes. Et autre point très important, un très bon livre publié chez Rue de l'Échiquier qui en parle, le chemin de fer qui a permis aux villes d'avoir un approvisionnement beaucoup plus lointain. Ça a été absolument déterminant dans l'histoire de l'agriculture. Pour moi, c'est une des dates essentielles de l'histoire de l'agriculture, l'invention du chemin de fer. Parce que quand on dit les villes n'ont plus que 3 ou 4 jours ou je ne sais pas combien d'autonomie alimentaire, oh là là, quelle horreur! Mais ça a toujours été comme ça. Simplement, quand les villes devaient s'approvisionner sur un petit territoire par charrette, eh ben les villes étaient beaucoup plus petites. On avait des petits bourgs, puis voilà. Et puis on avait quelques très grandes villes sur les côtes ou sur des fleuves près des ports, enfin près des côtes. Rome, Londres, Paris était déjà un cas un peu particulier, assez loin de l'embouchure, avec déjà des mécanismes assez compliqués, etc. Et donc, le chemin de fer a permis de tout transformer de ce point de vue-là. Toute cette logique d'avoir utilisé des énergies fossiles, d'avoir spécialisé les gestes et d'avoir spécialisé les territoires, ça a choisi en fait de faire des économies d'échelle. On fait des économies d'échelle, je dirais, verticales, c'est-à-dire par filière. On va se spécialiser en lait, on va se spécialiser en céréales, on va se spécialiser, voilà, et y compris même en céréales, on va être spécialisé en certaines céréales. Typiquement, quand des céréaliers ont voulu passer en bio dans les années 80-90, les coopératives céréalières leur disaient « Vous êtes bien gentils, mais votre rotation complexe, là, votre succession de cultures complexe, vous vous introduisez des nouvelles cultures, nous on ne sait pas vendre, on ne va pas s'emmerder à vendre ça, nous ce qu'on vend c'est du blé, dans le cas de la GPM c'est du maïs, etc. Enfin, voilà, donc, débrouillez-vous. » Donc ils ont dû créer leur propre coopérative pour pouvoir avoir des filières plus diversifiées. Et donc on a vraiment construit une logique d'économie d'échelle verticale. Si on avait décidé, par les investissements publics, par les infrastructures publiques, par l'intervention globale de l'État, de construire une économie d'échelle horizontale, vers l'échelle des territoires, avec une complémentarité des productions et une déspécialisation, une polyvalence des territoires, on pourrait très bien avoir la même économie d'échelle. On n'a juste pas construite. Les consommateurs, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent acheter que ce qui entre dans le modèle. Auquel s'ajoute un élément dont je n'ai pas encore parlé, le néolibéralisme. Parce que le capitalisme marchand au départ, et ça, ben, capitalisme industriel, ça a été toute une longue histoire. Mais il a une nouvelle histoire depuis quelques décennies, qui est le néolibéralisme. Où, en fait, depuis qu'a été mis en place l'OMC, enfin ça a commencé avant dans d'autres productions, pour l'agriculture ça date de l'OMC, c'est-à-dire 94-95, certains ont décidé que l'agriculture devait entrer dans ce qui s'appelait encore le GATT à l'époque, c'est-à-dire être sur un marché mondial. Or, le problème, c'est que le cours mondial agricole est un cours à perte, par définition. Depuis l'Antiquité, tous les États qui fonctionnent bien vont avoir des surplus. C'est le béaba, une société qui fonctionne, au niveau alimentaire, il faut qu'elle ait des surplus. Donc, les années où ça marche bien, il y a beaucoup de surplus, les années où ça marche moins bien, il y en a moins. Mais donc, les années où ça marche bien, bah, faut bien s'en débarrasser des surplus. Donc, on les vend à perte. Et puis, il faut des stocks. Mais les stocks, ça pourrit. Donc, il faut les renouveler. Quand on les renouvelle, il faut s'en débarrasser. Donc, on les vend à perte. Et en fait, le cours mondial s'est construit sur un cours à perte. Il n'est pas rémunérateur. Et donc, aujourd'hui, on demande à l'ensemble des agriculteurs du monde de vendre à perte. Aucun agriculteur ne pourrait aujourd'hui se rémunérer s'il n'y avait pas des dispositifs d'aide, comme il y a avec la politique agricole commune en Europe, par exemple. Enfin, si, quand je dis aucun, si, il y en a. Les grands ranchs. Plus une ferme va être gigantesque, enfin avec des salariés exploités, voire plus de salariés du tout, remplacés par des drones et de la chimie et du pétrole partout, enfin du pétrole qui sert de source partout, celles-là, elles arrivent encore à s'en sortir sur le cours mondial, mais pas les fermes françaises. Et donc, on a construit un cadre dans lequel certains types d'agriculture est bon marché pour les consommateurs et un autre n'est pas bon marché. Mais il n'y a pas de fatalité. C'est une décision politique, c'est une construction politique. Si on décidait, par exemple, de réinjecter dans le coût des aliments les coûts de dépollution de l'eau et les coûts de santé, il ne faut pas très longtemps avec la calculatrice pour comprendre que les produits bio coûteraient beaucoup moins cher que dans les magasins discount, si on compensait tous ces bénéfices qu'ils apportent à la société, au niveau environnemental et social. Je fais bien exprès de prendre dans ce sens-là. Je ne pense pas, personnellement, là il y a débat dans mon agricole, que ce soit souhaitable que tous les coûts soient intégrés dans le prix. Quand certains agriculteurs disent « je veux être rémunéré uniquement par mon prix de vente », ce qui voudrait dire que toute l'agriculture devrait être beaucoup plus chère que ce qu'est la bio aujourd'hui, ben, dans le monde tel qu'il est construit aujourd'hui, ça ne serait pas vivable. Et moi, je ne vois pas de problème à ce que la chose publique, parce qu'on vit en société, que la chose publique dise « on va rémunérer, on va valoriser un certain nombre de choix ». Elle le fait en douce aujourd'hui au profit de l'agro-industrie. Je préférerais qu'elle le fasse de façon transparente demain au profit de la bio.
Alors, une fois encore, tu décris l'efficacité d'un système inefficace qui manifestement a créé un ascendant sur le monde agricole. Tu décris aussi dans le livre la façon de... l'horizon. comment on passe d'un modèle à un autre dans un système où voilà, un agriculteur est à la tête de 400 hectares, un patrimoine à transmettre de plusieurs millions d'euros, et est endetté. Je crois que la moyenne de l'endettement en Bretagne, c'est 250 à 280 000 euros par exploitation. Comment on stoppe la machine infernale et comment on passe à un autre modèle?
Alors bon, il y aurait bien une solution, c'est de faire la révolution. C'est de faire vraiment l'an 0-1 pour de bon. Je ne suis pas très favorable à la violence. Donc je préfère effectivement la logique l'an 0-1. Toute la société décide de tout arrêter et de remettre à plat. Je ne suis pas sûr que la société soit prête à le faire aujourd'hui, hélas. J'aime bien dire qu'à défaut du grand soir, on peut construire les petits matins. Et en fait, un des grands plaisirs que j'ai eu en écrivant ce livre, c'est que je me suis rendu compte que j'ai pu relier des éléments qui jusqu'ici étaient un peu disjoints. Dans les débats que j'ai depuis des années à l'issue de mes conférences, on parle toujours de plein de choses, des AMAP, qui permettent d'avoir des groupes de consommateurs qui vont aller chercher des paysans pour leur fournir de façon contractualisée à l'avance un certain nombre de produits. On a Terre de Liens qui va se battre pour acquérir de façon collective du foncier. Collectif, c'est très important, parce que la propriété privée de la terre, c'est aussi un truc qui vient de la révolution industrielle, en gros, enfin un peu avant quand même, hein. Mais c'est la même histoire. Les enclosures en Angleterre, toutes les domaines coloniaux hispaniques, ou la Révolution française en France, ça a été quand même tout ça dans la même dynamique historique. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de propriété privée de la terre. Il y avait des empilages de droits d'usage. Si vous regardez des textes médiévaux ou sur les droits ruraux, vous ne trouverez pas le mot propriétaire pour parler du seigneur, hein. Il n'était pas propriétaire de la terre. Il avait un certain nombre de droits d'usage prioritaires par rapport aux serfs, effectivement. Mais les serfs avaient des droits aussi que n'avait pas le seigneur, et des personnes de passage avaient des droits aussi, etc. Donc Terre de Liens, mine de rien, en rachetant des fermes pour en faire des propriétés collectives et aider à l'installation sur des fermes beaucoup plus petites, ne font pas que permettre de morceler un peu et de prendre le contre-pied de l'agrandissement industriel. Il y a aussi derrière un côté très subvertif, en fait, de la remise en cause de la propriété de la terre. Et puis on a l'épargne solidaire pour des petits projets. On a les bio, évidemment, qui mettent en place, d'un point de vue technique, plein d'alternatives qui permettent de sortir de tous les fondements agronomiques de cette agriculture industrielle. On a la sélection paysanne, c'est-à-dire la sélection décentralisée dans les fermes. Alors c'est un domaine que je connais bien, parce que j'ai été un des fondateurs du réseau semences paysannes. Quelquefois, on se dit que c'est les variétés anciennes. Les variétés anciennes, c'est pas parce qu'elles sont anciennes qu'elles sont meilleures, hein, ou c'est pas parce que les races locales sont locales qu'elles sont meilleures. C'est juste qu'on va récupérer des végétaux ou des animaux qui ont encore un matériel génétique premièrement diversifié, deuxièmement capable d'évoluer, parce que les variétés commerciales du catalogue officiel ont été stabilisées pour pouvoir être inscrites dans le catalogue, donc elles ne sont plus évolutives. Donc on a besoin de retrouver des variétés évolutives. Mais derrière, le but, c'est pas de reproduire l'ancien, c'est de construire l'agriculture de demain. Et donc la sélection paysanne, c'est de la sélection décentralisée par les paysans eux-mêmes, alors pas tous les paysans, certains justement le font aujourd'hui, et vont pouvoir échanger leurs semences localement parce qu'elles sont adaptées à un terroir donné, à des techniques données, à des besoins de consommateurs donnés. Il y a plein de déterminants dans le choix d'une sélection, puis aussi des envies du paysan lui-même, ou de la paysanne. Et donc, tous ces trucs-là, enfin, je pourrais en citer plein d'autres, ça part dans tous les sens. Et en fait, ça part pas dans tous les sens. En fait, toutes ces initiatives qui construisent des choses où on pouvait se dire « Ouais, mais est-ce que vraiment ça va subvertir le système d'avoir des petits trucs comme ça, atomisés, chacun dans son coin ?» Ben, ma conviction, c'est que oui, pour deux raisons. La première, c'est que, en fait, et c'est, j'espère, une des conclusions de mon livre, et je ne crois pas que ça avait été verbalisé comme ça jusque-là, c'est que l'ensemble de ces solutions ont une énorme cohérence, donc elles sont très convergentes, et elles obéissent finalement presque à un plan supérieur qui est de prendre le contre-pied de la logique industrielle. Une sélection décentralisée, c'est l'opposé de centraliser. L'agriculture bio avec une diversité de cultures, c'est l'opposé de l'uniformisation. Remettre de l'élevage herbager dans les régions qui n'en ont plus et supprimer l'élevage industriel qui n'a aucune raison d'exister, c'est la déspécialisation, et c'est évidemment sortir de la logique industrielle de cet élevage, etc. Et donc toutes ces logiques-là sont des logiques qui vont dans le morcellement, la fragmentation, la diversification, la décentralisation, la désaccumulation, tout ça, c'est le contre-pied de la logique industrielle. Donc pour moi, déjà, c'est très intéressant de prendre conscience que toutes ces initiatives qui ont eu l'air disjointes sont en fait des stratégies convergentes pour une agriculture qui n'est plus industrielle. Et puis le deuxième élément, pourquoi je pense que ça peut marcher, c'est que dans le fond, je ne dis pas texto dans le livre, je le reconnais, parce que je ne voulais pas aller trop loin dans la provocation, parce que ce n'est pas de la provocation, mais je pense que ça porte davantage si on est un peu moins militant, mais je peux le dire aujourd'hui dans une librairie anarchiste, c'est que c'est très exactement un projet anarchiste. Et que l'anarchisme, ça ne se décrète pas par une révolution, l'anarchisme, ça ne peut marcher que si ça se construit sur le terrain, et le principe même de l'anarchisme, et si on y croit, c'est bien qu'on pense que ça peut marcher, c'est de fragmenter, décentraliser, morceler, et c'est que par une multitude de prises de pouvoir locales, on va pouvoir faire s'effondrer la superstructure autoritariste. Ce qui est bien en agriculture, c'est que ça n'a pas été théorisé comme ça, mais c'est une anarchie qui se construit sans le savoir, sans le vouloir, depuis des décennies sur le terrain. Et je trouve ça super intéressant.
Du pognon, je veux plein de pognon. Je suis le roi de la merde, de la bouse de vache. Je suis un chasseur de primes et de subventions. J'aime le chômage, la pollution, mais je le cache. Les paysans et les losers vont ressortir leur monde meilleur. L'agriculture à taille humaine et puis leur haine des OGM. Moi je nourris avant tout de tourteaux de soja, du soja brésilien aux chuteuses OGM. Pour les grilles, je m'y donne le bilan carbone pour le méthane. Tu m'étonnes, il y a une âme. Les paysans et les losers vont ressortir leur monde meilleur. L'agriculture à taille humaine et puis leur haine des OGM. Pour régler la crise du logement. Des ruminants, j'ai ruiné une solution, source de pognon. Fini les animaux auprès, il faut tous les parquer en espace, au mètre carré près. Les paysans et les losers vont ressortir leur monde meilleur, l'agriculture à taille humaine, et puis leur haine des OGM. En 10 000, il n'y en a que 1 000 vaches serrées. Comme des fruits de mer sur un plateau, 1 000 vaches serrées. Et puis les 1 000, il n'y a pas de risque d'épidémie dans les antibiotiques. J'utilise la dentibiotique. Les paysans et les losers vont ressortir leur monde meilleur. L'agriculture à taille humaine et puis leur haine des OGM. Pour éviter d'angoisser en vain mes voisins. Sur les risques pour leur santé et les rassurer. Suffit de ne pas faire d'études sur le sujet. Quand t'as bras long, t'as toujours une solution. Les paysans et les losers vont ressortir leur monde meilleur. L'agriculture à taille humaine et puis leur haine des OGM. Ferme ta bouche, ferme ta gueule. D'un ton ferme, d'un ton dur. On me dit fermeture, on me dit en là, ferme la ferme, ferme ta ferme, et je ferme, 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 je ferme les autres fermes. Les paysans et les losers vont ressortir leur monde meilleur, l'agriculture à taille humaine, et puis leur haine des OGM. Les paysans et les losers vont ressortir leur monde meilleur.
Et nous poursuivons l'écoute de cette présentation du livre Agriculture industrielle, on arrête tout et on réfléchit aux éditions Rue de l'Échiquier. Et cette présentation se tenait en compagnie de Jacques Kaplat et Stéphane Kerkov. Et cette présentation avait lieu le 5 mars 2025 à la librairie Quilombo à Paris.
Je suis frappé du hiatus entre ce que tu décris comme horizon, qui fait envie à tout le monde ici, et ce que nous subissons jour après jour avec la loi d'orientation agricole, avec la proposition de loi Duplon, avec le salon de l'agriculture, avec les élections aux chambres professionnelles. Le nombre d'exploitations est passé, tu vas me reprendre sur les chiffres, je ne suis jamais très bon là-dessus, d'1 million ou 1,5 million d'exploitations dans les années 40-50 à 350 000 aujourd'hui. On perd une ferme toutes les 20 minutes depuis 50 ans, ce qui est le plus grand plan social. eux, ils arrivent en disant, bah, en fait, on va mécaniser, on va avoir une agriculture 4.0 sans agriculteur, on va augmenter la taille des parcelles, on va amener l'industrie dans l'agriculture parce que nous n'avons plus personne prêt à faire l'effort d'être un agriculteur. Donc, c'est quoi notre modèle? C'est quoi notre vision? Et est-ce que, en fait, elle résiste à l'analyse 3 minutes quand on dit, bah, en fait, nous, notre modèle réticulaire, résilient, avec plein de paysans, bah derrière, en fait, on n'a personne dans cette salle qui est prêt à devenir paysan, ou en tout cas sur des parcelles de 3 hectares et non pas de 400 hectares. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, quand j'habite en Bretagne, j'habite dans le Charolais, les exploitations, elles continuent à s'agrandir. On continue à arracher des haies, malgré tout ce qu'on peut dire. Donc, en fait, il y a une fois encore un grand écart entre ce qu'on décrit comme idéal et ce qu'on voit sur le terrain.
Alors, sur la dimension, ce modèle, il propose une solution à l'absence de paysans. En fait, attention, il provoque l'absence de paysans. C'est-à-dire, si aujourd'hui, c'est impossible de reprendre des fermes parce qu'elles sont trop grosses et trop chères, c'est bien parce que le modèle a conduit à ça. C'est pas l'inverse, il faut pas inverser. Ils aimeraient. En fait, la manière dont je vais la présenter, c'est normal, c'est le principe rhétorique, mais la manière dont je vais la présenter, c'est la manière dont ils aimeraient nous convaincre que les choses se passent, alors que c'est pas du tout dans cet ordre-là que ça se passe. Ils ne proposent pas une solution à un manque de vocation. Ils provoquent un manque de vocation parce que le système industriel ne permet pas à des vocations d'exister. La réponse, ça reste à la base, comment est-ce qu'on combat ce système? Enfin, comment, clairement, on fait autre chose. Concrètement, en plus, la question des vocations, dit, il y a peut-être personne dans la salle qui veut devenir paysan, mais c'est pas grave, au niveau de la France, je sais qu'il y en a. Si on prend le nombre de personnes qui s'inscrivent dans des formations agricoles, c'est beaucoup plus que le nombre de fermes qui se libèrent tous les ans en France. Si on prend le nombre de personnes qui aboutissent à un projet d'installation, il y en a déjà beaucoup moins, c'est à peu près le même nombre que de fermes qui se libèrent. Donc on a de quoi remplacer les paysans aujourd'hui. Si on permettait à davantage de postulants agriculteurs et agricultrices d'aller au bout de leur projet, on en aurait même plus que de fermes qui se libèrent. Et donc, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que, évidemment, quand il faut sortir une somme énorme pour reprendre une ferme, ce n'est pas possible. Donc la question, c'est, il y a la politique publique par le haut, il faut faire exploser ce système, et ça, on y arrivera complètement qu'à un moment donné, on est une majorité dans un État ou dans l'Europe pour organiser cette évolution. On ne l'a pas du tout aujourd'hui. L'autre solution, c'est on effrite le colosse par la base au maximum en prenant conscience de l'importance de toutes ces initiatives que j'ai évoquées, il y en a plein d'autres, et en essayant de faire en sorte que les énergies convergent vers ça. C'est-à-dire que ceux qui ont de l'épargne aillent mettre leur épargne, non pas dans les banques classiques qui en plus leur donnent des intérêts en général grâce à des projets climaticides et qui détruisent la biodiversité, mais en mettant leur épargne dans des projets d'installation agricole alternative, de rachat de terres, etc. Quand je parle par exemple de morceler les fermes, ça ne veut pas forcément dire faire une réforme agraire, ça peut être une solution, mais hélas, à part quelques pays autoritaires, se disant communistes à une époque, mais je crois que même à l'époque, pas grand monde considérait qu'il l'était vraiment, à peu près personne n'a réussi depuis un siècle à faire des réformes agraires vraiment. Alors, on pourrait peut-être y arriver, hein. Quelqu'un en aurait la volonté, ce serait sans doute faisable. C'est pas courant, politiquement. Si le but, c'est de reproduire des petits modèles, de petites fermes patrimoniales, comme celle de mon père, où il prenait jamais de week-end, jamais de vacances, ou quand il partait à des réunions syndicales, quelquefois il partait quand même un jour ou deux, ben, ça va bien que j'étais gamin, que j'étais sur la ferme pour nourrir les animaux. Bon, enfin, on peut pas continuer ce modèle-là. Donc, les fermes telles qu'elles existent aujourd'hui pourraient très bien être le support d'une autre façon de pratiquer l'agriculture. Une ferme de 500 hectares peut être une ferme écologique et très chouette. Si, au lieu d'avoir un agriculteur et deux salariés sur 500 hectares, parce qu'il ne faut pas oublier les salariés en agriculture, on les oublie un peu trop, hein, on remplaçait par une dizaine d'associés et peut-être quelques salariés en complément, parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'être associé agriculteur, ça change tout, avec une diversité de production, puisque s'il y a 10 personnes sur la ferme ou 15 personnes sur la ferme, ben, tout le monde n'a pas les mêmes compétences, tout le monde n'a pas les mêmes envies. Donc il va y avoir des choses différentes qui vont se faire, il y en a qui vont faire un peu d'élevage, il y en a qui vont faire des cultures, qui vont innover les nouvelles cultures, il y en a qui vont faire du maraîchage, il y en a qui vont faire de la transformation, qui vont faire de la boulangerie, qui vont faire... Voilà, et à ce moment-là, on peut arriver à construire des choses. Mais bon, je suis conscient que ce que je dis là, c'est des petites initiatives.
Il début avril, nous allons avoir une proposition de loi du sénateur Duplomb, ancien responsable de la FDSEA de Haute-Loire, qui va légaliser l'épandage de pesticides par drone, réintroduire les néonicotinoïdes, modifier les processus d'évaluation des pesticides pour redonner la main aux politiques et non plus aux scientifiques. Enfin, on a quelque chose qui est...
Faciliter la construction de mégabassines, relever les seuils d'agrandissement des fermes-usines en élevage, etc.
Et en fait, pourtant, ils arrivent à faire passer des lois.
Mais par rapport à ça, en fait, c'est une réalité. Ok, c'est une réalité. Mais face à cette réalité, il y a une raison très forte de ne pas baisser les bras. Pour moi, c'est une évidence. Je le démontre quasiment par mon livre et par mes travaux. Je ne développe pas tellement dans celui-là, je l'ai développé dans d'autres livres, combien le dérèglement climatique est en train d'exploser complètement l'agriculture. Il faut quand même que je le précise. Ce modèle donc industriel s'est traduit d'un point de vue technique. Alors, il y a des racines qui remontent à très très loin, d'avant la révolution industrielle. Mais en tout cas, ce modèle, il a comme caractéristique d'être basé sur la lutte contre le vivant. Pourquoi ? Parce que il obtient des très hauts résultats. Alors, quand on dit que ces variétés à très haut rendement qu'on a maintenant, qu'on a une agriculture très performante, elle n'est très performante que si on est capable de maîtriser dans les champs pour reproduire exactement les conditions théoriques de la sélection des plantes qu'on cultive. Donc on a cultivé des maïs qui ont des super rendements, mais comme on les a cultivés depuis 90 ans dans des conditions où ils sont toujours irrigués, c'est un béaba de biologie évolutionniste, hein, l'évolution ne peut pas se faire s'il n'y a pas de pression de sélection. Si vous avez toujours de l'irrigation, vous n'aurez pas d'adaptation du maïs à la sécheresse, c'est pas possible. Donc forcément, c'est des maïs qui ne sont pas capables de supporter la sécheresse. Et tout est à l'avenant, c'est-à-dire qu'on a construit un modèle qui ne donne de haut rendement qu'à la condition de contrôler les milieux de production grâce à des engrais de synthèse catastrophiques pour le climat. Les engrais azotés fabriqués à partir du gaz russe, en plus, avec tous les problèmes géopolitiques que ça pose, c'est une des principales causes de dérèglement climatique de l'agriculture européenne, parce que le protoxyde d'azote, c'est 300 fois plus réchauffant que le CO2, 10 fois plus que le méthane des animaux. Et lorsque on n'arrive pas, grâce à tout ça, à reproduire les conditions idéales, par exemple parce qu'il y a une sécheresse, parce qu'il y a une tempête monstrueuse avec plein de pluie, parce qu'on a des pluies interminables pendant 6 mois, parce qu'on a du chaud précoce au printemps, et puis un gel normal ensuite, qui grille tous les végétaux qui avaient commencé à bourgeonner. Tous les éléments classiques de ces dernières années, eh bien, ça ne fonctionne plus. Donc ce modèle, il est en train de s'effondrer. Et je pense que ce qui se passe avec la loi Duplomb, vu qu'il veut réautoriser l'acétamipride, qui est un néonicotinoïde, donc un pesticide tueur d'abeilles, l'Union des apiculteurs avait titré avec ce projet de loi « Les abeilles ont Duplomb dans l'aile ». Bon, voilà. Et donc Duplomb, le projet de loi qu'il porte est aussi le vote coordination rurale aux élections chambres d'agriculture et toute la droitisation qu'il y a en agriculture comme ailleurs. En tant qu'agronome, je ne peux pas concevoir que ce modèle agricole conventionnel, donc là je parle sur l'aspect agronomique de la chose, je ne peux pas concevoir qu'il ne s'effondre pas. C'est absolument inévitable. Le seul truc, c'est que actuellement, il faut tout pour tenir le plus longtemps possible, enrichir le plus longtemps possible ceux qui s'enrichissent de ce modèle et être dans le déni. Et le problème, c'est que si on les laisse faire, l'effondrement va être une abomination. Donc, ce modèle, s'il s'effondre en l'état, ça va être une catastrophe pour la biodiversité, pour le climat et pour les humains. Je suis très gêné par un certain nombre d'écologistes, notamment dans les courants qu'on appelle collapsologie, avec qui je partage des analyses, mais une sorte de côté, ça va venir tout seul. Ça va s'effondrer, donc c'est bon, attendons que ça s'effondre. Mais non, si on attend que ça s'effondre, c'est abominable. Il faut qu'on fasse en sorte qu'on les fasse s'effondrer, à notre main, en amortissant le choc, en récupérant les morceaux au fur et à mesure qu'ils tombent, et en les faisant tomber en douceur. Et donc, c'est là où on doit construire des choses alternatives. Voilà, on doit lutter à tous les niveaux. Donc, s'il vous plaît, soutenez les mobilisations d'Agir pour l'environnement et toutes les structures qui se battent contre cette loi Duplomb, notamment. Donc, ayez ça en tête. Elle va passer à l'Assemblée nationale dans quelques semaines, probablement. On n'a pas encore la confirmation de la date, mais il faut continuer à lutter à ce niveau-là. Et puis, il faut continuer à construire toutes les alternatives qui, de fait, préparent l'architecture de demain, en fait. Hein. Puis, il y a un aspect très optimiste. Remarque faite par un vieux copain qui est maintenant, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent son nom, vieux copain, il ne faut pas exagérer, je ne suis pas un grand copain à lui, mais je l'ai croisé depuis longtemps, et Philippe Desbrosses, qui a été un des pionniers de la bio en France, et récemment, enfin il y a une dizaine d'années maintenant, il avait utilisé une formule dans une conférence que je trouvais extrêmement intéressante. Est-ce que vous connaissez la notion de cellule imaginale ? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les insectes, ils ont plusieurs phases. Par exemple, si vous prenez chenilles, papillons, etc., enfin voilà, il y a tout un tas de phases larvaires, il y a différentes étapes. Et l'adulte reproducteur final, c'est ce qu'on appelle l'imago. Mais il faut savoir que quand un insecte passe d'une phase à une autre, il se transforme de façon extraordinaire. Pensez, la chenille qui devient un papillon. Enfin, quel est le rapport entre une chenille et un papillon, quand même? Et en fait, il y a des cellules à l'intérieur de la chenille qui commencent à transformer l'organisme de l'intérieur. Et l'organisme lutte contre ces cellules comme si c'était des cancers, en fait. Dans un premier temps, l'organisme essaye d'éliminer cette transformation qui est en cours. Donc c'est minoritaire, c'est marginalisé, c'est vu comme les méchants par l'organisme en place. Et à un moment donné, il y a un basculement. Il est spectaculaire quand il se produit. Quand le basculement se fait, c'est une réaction en chaîne positive. Et très très rapidement, tout l'organisme se transforme et devient un imago. Et ces cellules, donc on appelle les cellules imaginales, je me plais à penser que nous sommes l'équivalent de la société humaine aujourd'hui. L'espoir que j'en ai, c'est qu'on n'est pas juste dans une résistance où on est, quand on est une résistance, on est minoritaire et on a une vocation à rester minoritaire. J'espère qu'on est comme les cellules imaginales, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut basculer. Il n'y a pas de paysan qui dit « j'ai plaisir à traiter avec des produits chimiques ». Ça n'existe pas. En fait, ils sont déjà prêts. Il suffit peut-être de pas grand-chose pour qu'à un moment donné, ils basculent. Et moi, c'est ce que j'espère, à un moment donné, arriver à les emmener. Et ça pourrait être spectaculaire et beaucoup plus rapide qu'on ne le croit. Donc je garde un grand espoir de ce point de vue-là.
Je vous trouve particulièrement bienveillant à l'égard de Jacques, qui a quand même réussi à considérer que l'anarchiste était une cellule cancéreuse.
Une cellule imaginale, s'il te plaît.
Peut-être un mot, et notamment sur les... tu as fait un bouquin entier là-dessus, donc je pense que tu peux faire quelques phrases sur le modèle bio. Sa capacité à nourrir le monde. On préfère toujours l'herbe du voisin, qui est toujours plus verte, mais là, pour l'instant, on quitte un modèle, certes imparfait, certes critiquable, certes en crise, mais qui a le mérite de nous nourrir avec de la malbouffe. Mais est-ce que la bio est en capacité de répondre à une demande?
Oui. En fait, il y a plusieurs niveaux. D'abord, il faut tordre le cou à une idée reçue qui est que on ne produirait pas assez d'aliments dans le monde aujourd'hui. Première idée reçue... problématique parce qu'en fait, on produit 300 kg équivalent céréales par humain et par an actuellement, alors qu'on a besoin de 200 kg équivalent céréales par humain et par an. C'est un calcul qui a été fait par Marc Dufumier, qui est également un des pionniers de l'agroécologie et de la bio qui m'a inspiré. On produit une fois et demie ce dont on a besoin pour nourrir l'humanité. Pourtant, depuis que l'agriculture conventionnelle existe, elle n'a jamais résolu le problème de la faim. Ça aussi, c'est un autre aspect. Elle n'a jamais nourri le monde, cette agriculture. Parce que, de facto, on a entre 800 millions et 1 milliard d'humains qui souffrent de la faim tous les ans. Ça n'a pas cessé. Alors pourquoi cette agriculture conventionnelle et industrielle n'a pas nourri le monde? Tout simplement parce que ce n'est pas du tout sa vocation. Son but étant de produire de façon massive... Pardon, je reprends. Ça a été sa vocation dans l'esprit d'une partie de ses pionniers au 19e siècle. Il y a une partie des hommes politiques, c'était effectivement des hommes politiques, pas de femmes politiques à l'époque, qui ont poussé ce modèle d'agriculture industrielle, le faisaient avec ce rêve de nourrir la France. Bon, il faut reconnaître aussi qu'il faussait un peu les choses parce que ça marchait à condition d'exploiter des colonies. Hein. Donc bon, mais à leurs yeux, on va dire que ça pouvait marcher. Mais en réalité, très rapidement, ce n'était pas ça le but. Le but de cette production massive, c'est d'enrichir. C'est de permettre l'accumulation des moyens de production dans les mains de quelques-uns. Et en fait, la force de travail des paysans permet d'augmenter progressivement la richesse des patrons des grandes multinationales agrochimiques, qui sont les mêmes. Les 5 plus grandes multinationales des semences sont les 5 plus grandes multinationales productrices de pesticides. En fait, le but de cette agriculture, c'est pas de nourrir le monde, c'est de produire de la richesse. Et aujourd'hui, cette agriculture, elle a une formidable rentabilité financière, mais elle est très peu performante, en fait, cette agriculture conventionnelle. Et malgré tout, bien qu'étant très mauvaise, elle produit une fois et demie de quoi nourrir le monde. Mais pourquoi est-ce qu'on souffre de la faim? Parce que la faim est un problème de pauvreté. Maintenant, c'est enfin bien visibilisé que même en France, on a une proportion importante de la population qui souffre de la faim. Je crois qu'on a dépassé 10 millions ou 12 millions de personnes qui recourent aux banques alimentaires. En France. Pourtant, on est un pays riche, faut pas déconner. La richesse par habitant en France n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. Et à l'inverse, au Malawi, qui est le pays le plus pauvre du monde, a priori, à moins qu'il ait été détrôné malheureusement par un autre, mais... Le Malawi, il y a des gens qui ne souffrent pas de la faim au Malawi, c'est les riches. C'est l'accès à la nourriture qui pose un problème. Or, cette agriculture industrielle étant basée sur l'accaparement des moyens de production dans les mains de quelques-uns, elle produit forcément de la pauvreté. C'est consubstantiel à ce modèle. Au Brésil, ce modèle a produit une énorme pauvreté qui a créé les favelas. Ce modèle est pourvoyeur de faim. Il ne résout pas le problème de la faim. Alors est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce que l'abdo ça fonctionne? En fait, ça fait déjà, je dirais 30-40 ans qu'on a des données, mais ça fait 15-20 ans que c'est pas discutable à l'échelle mondiale. Il y a des études de l'université d'Essex qui avait étudié plusieurs dizaines de millions d'hectares dans 53 pays. Donc c'est un truc énorme. On a eu une étude du PNUE, du Programme des Nations Unies pour l'environnement. On a eu les travaux de Olivier de Schutter, qui, à l'époque où il était rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Enfin, un certain nombre de travaux, et puis il y en a eu plein d'autres depuis, montrent qu'en fait, sur l'ensemble de la planète, la bio nourrirait sans aucun problème l'humanité. Notamment parce qu'elle a des rendements supérieurs aux conventionnels sur la plupart de la planète. Alors nous, on se prend le dérèglement climatique dans la gueule, là, maintenant. Mais les trois quarts de la planète, ils l'ont toujours eu. Enfin, ils ont toujours eu une instabilité, en tout cas. Ils se prennent davantage de problèmes dans la figure, eux aussi, malheureusement, à cause de nous, essentiellement. Mais, en fait, ça a fait illusion chez nous, ce modèle. Parce que nous sommes dans un milieu qui est dit tempéré. L'Europe, c'est un milieu tempéré. Enfin, c'était un milieu tempéré. Donc, on avait des conditions maîtrisables. Mais dans la plupart des terres agricoles de la planète, ça n'a jamais été le cas. Et donc ce modèle n'a jamais été performant en réalité. C'est un pur mensonge. Quand on nous dit que le riz asiatique, le riz en Inde, va produire des tonnes de rendement de riz par hectare, mais c'est les bonnes années. La réalité pour un paysan, ce n'est pas les bonnes années. La réalité pour un paysan et pour les gens qui se nourrissent, c'est la moyenne pluriannuelle. La moyenne pluriannuelle, c'est que ce riz, il a des très bons rendements à 10 tonnes par hectare certaines années, et des rendements catastrophiques à moins d'une tonne par hectare les autres. Parce que dès que les conditions ne sont pas idéales, le rendement s'effondre complètement. Parce que ce modèle n'est pas résilient. Il n'est pas capable de s'ajuster. C'est tout ou rien. Et quand on fait la moyenne, on arrive à 3 tonnes par hectare et par an, en moyenne. Le riz bio en Inde fait 4 tonnes par hectare et par an, en moyenne. Donc en fait, la bio, dans la plupart des territoires de la planète, est déjà plus performante. Il n'y a qu'en Europe qu'elle l'est moins. Et en Amérique du Nord, enfin, au Canada. Même aux États-Unis, elle n'est pas meilleure. En Europe et au Canada, le modèle conventionnel produit effectivement plus que la bio, c'est vrai. Alors, d'une part, c'est en train de s'effondrer. Dans l'état actuel des choses, il y a des études comme l'étude de Solagro en France ou l'étude de l'IDRI à l'échelle de l'Union Européenne, une étude qui s'appelle TIFA, T-Y-F-A, qui fait des hypothèses. En fait, ils ne parlent pas de bio, ils parlent d'agroécologie, mais en fait, quand vous regardez, c'est beaucoup plus rigoureux que la bio actuelle européenne. C'est encore plus exigeant, c'est vraiment du bio plus. Et bien, dans le modèle de l'IDRI, donc du scénario TIFA, en 2030-2050, il y a deux étapes, une agriculture 100% bio en Europe nourrirait sans problème la population de l'Europe prévue à cette date-là. Quand vous avez plusieurs plantes, l'avantage, c'est que quand il y en a une qui ne va pas bien marcher cette année-là parce qu'il fait trop sec pour elle, ou trop humide pour elle, ou qu'il a fait froid trop tard, ou chaud trop tôt, ou je sais pas quoi, eh bien, il y en a une autre qui va marcher. Plus vous diversifiez les cultures dans la parcelle, plus il y en a qui vont marcher. Mais l'avantage, quand c'est mélangé, plutôt que juste des parcelles différentes sur la ferme, c'est que quand vous avez des parcelles différentes sur la ferme, s'il y en a une qui ne marche pas, ben, cette année-là, sur cette parcelle-là, vous n'avez rien. Alors que quand vous les mélangez, eh bien, celles qui marchent vont prendre la place de celles qui ne marchent pas. Et vous avez donc une garantie de production de biomasse à l'échelle de la ferme. Par contre, l'industrie n'aime pas, parce que vous ne savez pas d'avance ce qui va marcher. Vous ne savez pas d'avance quelles vont être les cultures qui vont bien marcher cette année-là. Donc vous ne pouvez pas planifier les volumes des différentes cultures, et vous allez devoir ajuster les outils industriels en fonction de la réalité du terrain. Adapter l'industrie agroalimentaire aux réalités agricoles, ben c'est très exactement ce qu'il faudrait faire et ce que l'agro-industrie ne veut surtout pas faire.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur. Mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat, et pas le capital,
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la...
Radio primitive.
La radio associative.
If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel?